Transistor. Des entretiens.
Jean-Luc Marion.
Donc, pour situer votre œuvre, votre dernière œuvre dans le paysage philosophique contemporain, est-ce qu'on pourrait commencer par se demander si il ne s'agit pas, encore une fois avec cette œuvre, de penser quel peut être le rôle de la phénoménologie en notre temps, qui est un temps de nihilisme? Est-ce que la phénoménologie apporte à ce temps de nihilisme un surcroît de rationalité, ou alors un cran d'arrêt mis à ce en quoi consiste le nihilisme, le renversement de toutes les valeurs?
Le nihilisme met en cause l'essence de la raison, si la raison a une essence. Et le propre d'un discours nihiliste, c'est de dire qu'il n'y a pas de nihilisme, comme l'explique fort bien Heidegger. Le propre du nihilisme, c'est de dire que tout va bien et que ce qui nous inquiète est seulement le développement exponentiel et donc irrésistible et tout à fait justifié de la rationalité. Donc on peut dire que l'une des formes du nihilisme consiste à ne pas s'interroger la possibilité de l'irrationalité de la rationalité elle-même. Alors, dans ce contexte, quelles sont les méthodes philosophiques, si la notion de méthode a un sens, non nihiliste, dont nous pouvons disposer? Il me semble que la phénoménologie offre des possibilités à condition de ne pas la rabattre elle-même sur des modèles métaphysiques. On peut considérer la phénoménologie comme une des formes de l'idéalisme transcendantal, ça a été fait de bien des façons, et ainsi on la rabat sur ce dont elle s'efforce peut-être de se libérer, qui est justement la défaite nihiliste de la rationalité. On peut aussi penser la phénoménologie comme une méthode de pure description, pour ainsi dire, d'un empirisme supérieur. Là aussi, on rabat la phénoménologie sur ce dont elle veut se libérer. Il me semble que la phénoménologie a essentiellement une fonction de mise en évidence, mais d'une mise en évidence qui se fait contre les règles de la métaphysique. Et c'est pourquoi j'ai construit cet oxymore de certitude négative, puisqu'en principe une certitude est toujours positive et toujours affirmative. Mais il y a des certitudes négatives sur le modèle, si je puis dire, des grandeurs négatives de Kant. Il y a des certitudes négatives en ce sens que la phénoménologie arrive parfois à décrire des questions de telle sorte que ces questions apparaissent comme sans réponse. Et que l'absence de réponse est une de leurs caractéristiques les plus fortes. Et la phénoménologie peut faire ça, cela aussi. Si on s'en tient, si on pratique ce que ne font pas tous les phénoménologues actuellement, c'est sans doute une erreur, si on pratique d'abord la réduction. Voilà ce que j'ai voulu faire.
Pour ce qui concerne la situation de l'ouvrage, de l'œuvre, des phénomènes sartoriales et certitudes négatives. Alors, c'est une nouveauté, un approfondissement. En quoi la certitude négative dit quelque chose de nouveau ou approfondi ce que vous avez déjà dit sur les phénomènes sartoriels? Conclusion, reprise, élargissement.
Oui, parce que donc, dans la toute première page de l'œuvre, vous dites que ce livre conclut pour un temps du moins le déploiement des possibilités théoriques ouvertes en 97. Alors que...
Bien, là, l'un des buts avoués de mon travail depuis Réduction et Donation consiste à défaire l'équivalence entre la phénoménalité, l'objectivité et l'identité. Alors, cette désarticulation, pour libérer autant que faire se peut les possibilités non objectives et non ontiques de la phénoménalité, se fait par l'interprétation du phénomène comme donné, et donc comme donné non objectif et non étant. Alors, ce faisant, on entre dans un horizon général du paradoxe, c'est-à-dire en termes métaphysiques, il est évident que tout ce qui apparaît doit être, et qu'il ne peut pas être s'il ne peut pas s'objectiver. Donc, soutenir que ce qui apparaît n'est pas nécessairement, et que ce qui apparaît et qui est n'est pas nécessairement non plus un objet, c'est déjà une proposition paradoxale. Alors, il y a plusieurs façons de développer ces paradoxes. C'est pas hors de l'identification métaphysique du phénomène de l'objet de l'étant. Il y a le phénomène saturé. Alors, l'intérêt du phénomène saturé, c'est que il reste, en quelque manière, une variation extrême de la définition traditionnelle du phénomène. C'est aussi sa limite, parce que le phénomène saturé apparaît, si je puis dire, comme simplement hors-circuit d'un circuit qui laisse son essence en place, qui est le circuit du phénomène non saturé, du phénomène de droit commun. Donc, quelles que soient les possibilités descriptives du phénomène saturé, qui sont sans doute plus grandes que ce que j'imaginais en écrivant, au moment où j'écrivais le étant donné, je dis ceci parce que je vois que le concept est repris dans différentes orientations, différents domaines qui n'étaient pas du tout ce que j'envisageais, mais le phénomène saturé reste une des possibilités de nommer le paradoxe. Alors, il y en a une autre qui m'a retenu, qui est d'ailleurs déjà esquissée dans la tradition, c'est le fait que toute question dont nous savons que par définition elle ne peut pas recevoir de réponse devient une certitude. Alors, cette position est une position que l'on trouve chez Descartes, chez Kant, massivement. Alors, que d'une certaine manière on trouve chez Wittgenstein, mais que ce qu'on appelle de manière bien vague la philosophie analytique ou la philosophie du langage, d'une certaine manière, a sous-estimé. Parce que, dans mon esprit, il ne s'agit pas de questions sans réponse, parce que ces questions ne sont pas douées de sens. Ce sont des questions parfaitement douées de sens et dont le sens implique qu'il n'y a pas de réponse. C'est tout à fait différent de l'entreprise qui consiste à disqualifier des questions comme mal posées. Il s'agit de questions bien posées. Et c'est pour ça, c'est d'ailleurs pourquoi elles sont récurrentes. Ce sont des questions bien posées qui implique que, d'une certaine manière, aucune réponse ne puisse leur être donnée. Et en ce sens, elles ont une fonction de certitude. Donc, je pense que la certitude négative, curieusement, est l'envers du phénomène saturé, parce que le phénomène saturé porte sur la positivité intuitive, et on lui a reproché d'être une forme d'empirisme, d'affirmation non critique, etc., du donné. Très bien. Mais la certitude négative est d'une certaine manière l'envers du phénomène saturé, parce qu'elle porte sur un... Je ne veux pas dire ainsi. Enfin, elle porte sur le concept. C'est le concept qui ne peut pas se dire lui-même. Donc, il y a une version, si je puis dire, de l'excès de donation qui, dans le cas de la certitude négative, serait lié directement, et par, là aussi c'est un peu surprenant, et cela m'a surpris moi-même, au concept, et non pas seulement à l'intuition. Alors, je dis provisoirement, parce que j'ai appris à ne pas, ne pas injurier l'avenir, de la même manière que je suis obligé en ce moment de revenir à Descartes pour terminer le parcours, en m'interrogeant sur le dernier Descartes, il est bien possible qu'un jour, je doive faire un commentaire de plus à l'hypothèse d'une phénoménologie de la donation.
Est-ce que vous pourriez, disons, donner un exemple de ce qui peut passer pour de ce qui est un phénomène saturé et de ce qui se comprend ensuite, du moins à ce point de l'œuvre, comme une certitude négative. Alors, est-ce que justement, pour la conférence de ce soir, est-ce que vous pourriez développer cette idée selon laquelle Dieu ou la question de Dieu est un phénomène saturé, puis peut être comprise comme une certitude négative?
Alors, on peut de fait prendre le cas Dieu successivement comme un phénomène saturé et comme une certitude négative. Alors, comme un phénomène saturé, en disant que si Dieu il y a, il faut le définir formellement comme ce qui est tel que rien de plus grand ne peut être pensé. Cette formulation anselmienne de saint Anselme, qui a la destinée brillante que l'on connaît et qui demeure toujours un concept opératoire à propos de Dieu, à propos duquel, même si on n'assume pas que de cette définition, si c'en est une, puisse s'en suivre nécessairement un argument sur la licence de Dieu, cette définition reste opératoire. C'est-à-dire, si on définit Dieu autrement que comme ce qui est plus grand que tout ce qui peut se penser, dès le début, on n'est pas dans la question de Dieu. Donc, en ce sens, nous avons une définition opératoire. Alors, c'est une définition intéressante parce qu'elle est exactement conforme à la définition que je donnais, sans y penser d'ailleurs, sur le moment, du phénomène saturé, c'est-à-dire le cas où le concept est d'emblée incapable de circonscrire le donné en tant qu'intuitif. Et justement, c'est ce qui se produit lorsque ce dont il s'agit est plus grand que tout concept. Même si ce dont il s'agit n'est pas intuitivement donné, non, dans ce cas d'espèce, même si ce dont il s'agit n'est pas intuitivement donné, néanmoins, il doit surpasser tout concept possible. Donc on peut dire que saint Anselme est l'inventeur, enfin, je vous donne un exemple extrêmement brillant du phénomène saturé. Alors, plus généralement, nous dirons que Dieu ne peut s'aborder conceptuellement que sous la forme de la saturation du concept par l'intuition, selon toutes les rubriques que j'ai distinguées, en m'inspirant de Kant évidemment, de la saturation, c'est-à-dire selon la quantité, selon la qualité, selon la relation et selon la modalité, Dieu est ce dont il s'agit à partir du moment et aussi longtemps que le concept ne peut pas maîtriser l'excès de l'intuition. Alors, comment est-ce que on peut parler de Dieu comme d'une certitude négative? Bon, c'est l'autre argument qui consiste à prendre au sérieux une thèse dont je me suis étonné, n'étant pas, sans doute pas le premier de m'en étonner, à quel point elle a fait l'unanimité des différentes formes de philosophie et de théologie, à savoir que la distinction entre ce qui relève des dieux ou de Dieu ou du Dieu et ce qui relève des mortels, c'est que les mortels font l'expérience de l'impossible, c'est-à-dire de la limite de la possibilité, et que les dieux, le Dieu, le divin Dieu, s'il y en a, se définit formellement comme ce pourquoi ou pour qui il n'y a pas de distinction entre le possible et l'impossible, parce qu'il n'y a pas d'impossible. Cette distinction, à Dieu rien n'est possible, formulation biblique, cette formulation de Dieu comme ce qui ne peut apparaître que là où l'impossible pour nous est déjà ouvert, et ce qui, en un sens, n'a pas besoin d'apparaître et donc ne peut pas apparaître, n'est pas concerné aussi longtemps que nous restons dans le possible pour nous, cette définition, elle est évidemment la définition contemporaine de Dieu. Nous la retrouvons chez des auteurs aussi différents que Derrida, Lévinas, Bataille et d'autres, et je l'assume comme tel. Si Dieu se définit par l'impossibilité, c'est-à-dire que si la question de Dieu n'a de sens que si nous sortons du domaine où Dieu n'a rien à faire, qui est celui du possible, c'est-à-dire celui de notre rationalité, c'est-à-dire celui de l'irrationalité de la rationalité, c'est-à-dire celui du nihilisme, c'est-à-dire celui de l'essence de la technique, c'est-à-dire de notre monde, aussi longtemps que nous restons dans ce domaine-là, il n'y a pas lieu de Dieu. Si je peux m'exprimer ainsi. Je ne vais pas dire Dieu n'est pas possible. Je veux dire il n'y a pas lieu que Dieu soit la question. Dieu ne devient une question douée de sens qu'à partir du moment où on entre là où le mortel ne peut entrer, c'est-à-dire au-delà des limites du possible. Alors, cette définition est une définition négative. Et pourtant, c'est une définition qui donne une certitude. D'abord, que la question... Et cette certitude, c'est que la question de Dieu est toujours possible. Car si la question de Dieu ne s'ouvre que dans l'horizon de l'impossible, alors il n'a aucun sens à dire que la question de Dieu est impossible et que Dieu est impossible. Aucun sens. Et c'est cette impossibilité même qui ouvre la question de Dieu au lieu de la fermer. Bon, ceci est évidemment une certitude, à savoir il est impossible de fermer la question de Dieu, et donc la question de Dieu survit toujours à la mort de Dieu. C'est-à-dire pour ça que l'éternel retour de la mort de Dieu ne change rien à la question de Dieu. Et c'est pour ça. Alors, donc, cette impossibilité, cet énoncé négatif, est une certitude, et c'est la certitude devant laquelle la distinction entre le croyant et le non-croyant, entre l'athée et le théiste, se trouve annulée. C'est donc un cas de certitude négative massif.
Et juste pour revenir peut-être très brièvement à Bataille que vous citiez, et que vous citez dans certitude négative, est-ce que vous diriez, comme Bataille, que cette expérience de l'impossible est nécessairement à comprendre comme un supplice?
Bon. On ne va pas se mettre à parler de Bataille. Bataille est un symptôme, ça n'est pas un auteur. Mmh. Je trouve qu'il a été surévalué énormément. Moi, je le prends comme un symptôme. Je ne sais pas si l'impossible était un supplice pour Bataille. Et après tout, peu me chaud. Moi, je peux dire que l'impossible est une expérience. Il y a une expérience de l'impossible. C'est la définition de l'homme, c'est qu'il est justement toujours confronté à l'expérience de l'impossible. Et que, à moins que je ne sois favorisé de grâce spéciale, j'ai fait plus souvent l'expérience de l'impossible comme un délice que l'expérience de l'impossible comme un supplice. L'impossible n'est pas d'abord un supplice. L'impossible, c'est d'abord l'événement. C'est d'abord l'événement. Donc, ce qui fait le délice de l'impossible, c'est quand l'impossible décide de se délivrer des limites du possible. C'est-à-dire qu'il se délivre au sens anglais du terme, c'est-à-dire qu'il se livre, il s'abandonne et il est là. Voilà la première expérience de l'impossible. Ça n'a rien d'un... Ou alors c'est une délicieuse souffrance.
À l'aune de cet exposé sur Dieu comme impossible, est-ce que, et pardon de vous poser cette question qu'on doit vous poser souvent, est-ce que la notion de tournant théologique de la phénoménologie est-elle valable? Est-ce qu'il y a vraiment eu un tournant théologique? Ou est-ce que la phénoménologie n'est pas toujours déjà prête à être en dialogue, voire à être imprégnée de théologie? Est-ce un faux débat? Est-ce un vrai problème?
Écoutez, si c'est un vrai problème, il faut en débattre, il faut faire un peu d'histoire de la philosophie à propos de la phénoménologie. Bon, ben, il suffit d'ouvrir les textes pour voir que le tournant théologique a tourné non seulement avec, comme disait Brassens, les petits cons nés de la dernière pluie, dont je suis un heureux représentant, mais avec Michel Henry, dès Lévinas, pour ne pas parler de Ricoeur, qui a commencé par cela, avant même de faire de la théologie, de la philologie, il faisait en un sens de la théologie, dans le cas de la philosophie de la volonté. Alors, Lévinas, il a commencé à faire de la théologie quand même très tôt, hein, dans les années 30, ça commence à faire... Alors, on s'aperçoit à ce moment-là que Heidegger a fait son tournant théologique extrêmement tôt. Il en a fait même plusieurs. L'un du catholicisme au protestantisme, puis un autre du protestantisme à l'athéisme méthodologique, et puis après à l'expérience de la mort de Dieu, puis après retour au dernier Dieu, etc. Enfin, la question n'est pas réglée. Il y a encore des volumes de la Gesamtausgabe à lire. Donc, dans le cas de Heidegger, le tournant théologique a été un zigzag permanent. Et nous avons la chance d'avoir pu lire depuis quelques mois l'excellent dossier construit par Emmanuel Housset sur la question de Dieu chez Husserl. Les textes, nous le savions depuis les travaux de Madame Alice Bello, existaient, mais ils étaient très dispersés. Housset a fait un dossier tout à fait cohérent, où il ne force absolument pas le trait, et où il est bien clair qu'il y a une ambition que Husserl a déclarée, il veut rejoindre Dieu sans Dieu, ce qui fait que la question théologique est non pas un tournant, mais une téléologie, et que sans cette théologie, l'entreprise de Husserl est inintelligible. Alors, il y a peut-être un tournant théologique de la phénoménologie, mais c'est la phénoménologie elle-même. Donc, soyons sérieux. Alors, je ne parle pas de Scheller, je ne parle pas de tous ceux qui se sont directement revendiqués d'une orientation confessionnelle. Donc, je pense que c'était un ouvrage polémique parce qu'il relevait la... Il était symptomatique de la position elle-même fluente de mon vieil ami Domenico Giannico, qui d'ailleurs n'a pas terminé là-dessus, et mérite plus, je pense, d'attention que de le réduire à ce pamphlet utile et malheureux. Voilà.
Donc... Dans l'idole de la distance, vous introduisez le concept de médiatrice médiation, où l'homme est appelé à dire un oui pour se recevoir, où l'homme est appelé à un oui, de quelque façon à se donner pour recevoir. Or, la question c'est, dans certitude négative, quelle est la place pour l'initiative humaine dans le rapport à Dieu? Est-ce qu'il y a un rôle dans ce rapport pour l'attention et la volonté, et quelle articulation entre activité et passivité la certitude négative nous donne à penser?
Alors, ça n'est pas lié, les questions que vous posez sont des questions tout à fait centrales, et je vais essayer de donner quelques indications à leur sujet. Mais ça n'est pas lié à ce volume, la certitude négative. C'est une des questions que vous posez se traverse une bonne partie de mon travail. Et ça n'est pas lié non plus à l'idée de la distance. La notion d'immédiateté médiate, elle venait du commentaire de Hölderlin. Donc, On m'a souvent posé la question, mais la question suivante, En insistant sur le donné, vous faites deux erreurs. La première, il n'y a pas de donné. Et d'autre part, il y a un donné et vous réduisez la subjectivité à une pure passivité. C'est pas bien. Et alors, c'est beaucoup mieux qu'il n'y ait pas de donné, comme ça la subjectivité est gardée puisqu'elle est active et tout est en place. Alors, bien entendu, il n'y a pas de subjectivité, il y a un donné, et un donné qui se donne, car l'argument à propos du donné, contre le donné, selon lequel il y a un mythe du donné, consiste toujours à dire que le donné est déjà construit. Mais dans ce cas-là, si le donné est déjà construit, de fait, ça n'est pas un donné. C'est-à-dire la question de savoir comment il peut être construit. Que signifie que le donné soit construit? Pour que le donné soit construit, il faut qu'il n'ait pas de sens avant d'être construit, et j'en suis bien d'accord. Il faut donc qu'il arrive comme un donné anonyme. Et ce donné anonyme, qui n'a pas de sens comme tel, est précisément ce qui s'impose parce qu'il n'a pas de sens encore. Il s'impose dans une activité qui lui est propre, qui ne signifie pas du tout qu'il est une illusion. Le donné, comme l'anstoss de Fichte, si l'on veut, il faut prendre des comparaisons, comme le fait de la raison, le donné s'impose, il s'impose avant que d'être connu, comme dit Descartes de l'objet de l'admiration. C'est une passion qui porte sur ce qu'on ne connaît pas encore. C'est exactement la définition du donné. Donc le donné, au bout du compte, est un événement. Et c'est pour ça qu'il se donne. Il se donne en tant que non connu. L'objection sur laquelle il n'y a pas de donné parce qu'on ne sait pas ce que c'est et qu'il est construit est idiote. Enfin, elle est moins forte qu'elle ne le s'imagine. Bon. Donc, il faut penser le donné comme se donnant, et se donnant avant, évidemment, d'être reçu, c'est-à-dire avant d'être compris. Alors, où est l'activité dans cette affaire? L'activité, c'est la réponse, et la réponse, c'est la constitution, ou l'herméneutique, ou l'interprétation. C'est-à-dire, bien entendu, le donné ne devient intelligible qu'après coup. Et c'est la réponse. Et la réponse, c'est exactement, si l'on veut, la constitution, avec ou sans herméneutique. C'est le moment indispensable par lequel ce qui se donne, pour reprendre la définition du phénomène génialement formulé par Zanunseit au paragraphe 7, mais que Zanunseit, d'une certaine manière, n'illustre pas, parce que Heidegger ne veut pas jusqu'au bout, n'explique pas véritablement comment le phénomène se montre. Il dit « le phénomène se montre ». Mais quels sont les phénomènes qui se montrent dans Zeinstein, dans l'analytique du Dasein? En un sens, il n'y a que l'angoisse qui se montre à sa propre initiative. Tous les autres phénomènes, d'une certaine manière, restent des objets. Ceux qui sont forhanden, zuhanden, d'une certaine manière, restent des objets. Il n'y a que l'angoisse elle-même qui se constitue en se donnant, en se montrant par elle-même. Alors, pourquoi est-ce qu'il manque quelque chose pour comprendre le « se montrer » du phénomène? Parce qu'il faut comprendre que le phénomène se donne. Et le phénomène se donne, donc, et c'est sur la base du phénomène qui se donne que la réponse, l'activité, lui permet de se montrer. D'où la formule. La formule, tout ce qui se montre se donne. Mais tout ce qui se donne ne se montre pas pour autant. Tout dépend de la réponse. Et donc, nous répondons à ce qui se donne de telle manière que ce qui se donne finit par se montrer, si nous y répondons correctement. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes que personne ne peut voir. Des phénomènes à haute intensité ou à basse intensité qui sont tels que seuls ceux qui savent voir... ceux qui ont reçu les yeux, comme dit Heidegger à propos de Husserl, ceux qui ont reçu les yeux voient. Et ce qui permet de comprendre que ce qui n'a rien de contradictoire et ce qui prouve que Pascal et d'autres avaient bien raison, il y a des phénomènes qui ne se montrent pas parce qu'ils se donnent trop pour nous, et non pas parce qu'ils ne se donnent pas assez.
Est-ce que il serait pensable d'élargir ce rapport de la subjectivité ou de l'ego à Dieu, tel qu'il est pensé comme certitude négative dans cet ouvrage, dans le chapitre 2? Est-ce qu'il serait envisageable d'élargir donc ce mode du rapport de la subjectivité à Dieu à un certain mode de rapport entre une société tout entière et, une église, une révélation? En d'autres termes, est-ce que le mode de pensée de la certitude négative appliquée au rapport de la subjectivité à Dieu est applicable à un niveau politique d'une société et de son église ou de ses églises, enfin.
Réponse en général, premièrement, c'est aux gens qui font de la philosophie politique de répondre à cette question et d'y aller voir. Si ces concepts, certitude négative, saturée, fonctionnent dans ce domaine, eh bien, que les gens de ce domaine en décident, de la même manière que dans d'autres domaines, philosophie de l'art, art ou économie, il paraît qu'on a dit que ces concepts fonctionnaient. Donc là, je ne répondrai pas dans des domaines qui ne sont pas les miens. Deuxièmement, j'ai toujours juré que je ne ferai jamais de philosophie politique et je ne vais pas me laisser piéger par votre question. Et troisièmement, je vais quand même essayer de répondre. Je crois que, de fait, si l'on revient à l'événement, si maintenant je devais ajouter quelque chose à un chapitre à ce livre, je renforcerais le dernier chapitre sur l'événement et sur la distinction de tous les phénomènes en événement et objet. De fait, se donner pour un phénomène signifie advenir par une, selon une événementialité qui, évidemment, dépasse de loin l'anecdote de l'Eragnis au sens journalistique du terme. Mais l'événement, ce qui advient à un seul ou à plusieurs. Et donc, il y a une dimension collective de l'advenu. En ce sens, on peut supposer que la notion que le phénomène se donnant peut être analysé ou avoir des effets sur plusieurs. Donc une dimension sociale, voire politique. Et les phénomènes d'adhésion ou de rejet idéologique dans une société, les phénomènes liés à ce qu'on appelle la consommation, ce que les Américains appellent culture, puisque au sens américain, culture consiste en la façon de manger mal, de s'habiller mal, etc. Donc les comportements relèvent du rapport entre ce qui se donne et ce qui se montre, et donc des phénomènes saturés. Alors, je suis bien persuadé que l'irrationalité contrôlée des phénomènes sociaux relève, est inintelligible dans une rationalité étroite. On a besoin d'une phénoménalité élargie à la question de la donation. Je prends un exemple qui est la publicité pour vendre un produit. C'est très étonnant. Parce que la publicité pour vendre un produit, et je pense que c'est comme ça que la publicité a commencé, elle consistait à vanter les qualités objectives du produit. Qu'il était plus beau, plus efficace, qu'il était, etc. Or, c'est plus du tout comme ça que la publicité fonctionne maintenant. Ce n'est absolument pas sur les qualités objectives d'une automobile que l'automobile est vendable. C'est sur la capacité à être désiré. Et cette capacité à être désiré de l'objet est liée à la relation mimétique, à la mise en scène, à des associations d'idées, à des facteurs extérieurs. Ou bien on l'achète pour faire comme tout le monde, ou bien on l'achète précisément pour ne pas faire comme tout le monde. Enfin bon, il y a une foule de... Les sémioticiens peuvent en dire beaucoup, la psychanalyse aussi, etc. Donc, la publicité ne travaille pas sur la rationalité de l'objet technique, mais sur la dissimulation de la technicité de l'objet par la détermination de l'obscur objet du désir. Donc, ce qui est mis en jeu, c'est ce qui se donne et ce qui se reçoit. C'est le désir, c'est évidemment pas... la société de consommation ne consomme pas des objets techniques. Et donc, si on veut comprendre la société de consommation, on ne peut pas s'en tenir à une interprétation technicienne de la technique. Il faut passer à une rationalité, en l'occurrence à une phénoménologie, une description de la phénoménalité beaucoup plus large. Et donc, en ce sens, je suis tout à fait convaincu que la phénoménologie, un essai de phénoménologie de la donation, a des conséquences, a des capacités de description des phénomènes sociaux, donc politique et économique, mais je commencerai par dire économique, plus fort que une description rationaliste et objective de la phénoménalité. Alors, a fortiori, si vous considérez ce que votre question me semblait suggérer, si je puis dire, le marché de la spiritualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'une société donnée se comporte vis-à-vis des besoins de consommateurs qui consomment des objets obscurs du désir, et le désir a une âme, du moins il le croit, c'est l'essentiel pour qu'il y ait un marché, et donc comment ce désir-là se rapporte-t-il à son objet obscur. Alors, il est bien clair que Locke, la raisonnabilité du christianisme, rendre le christianisme raisonnable. Alors, que signifie rendre le christianisme raisonnable? Ça veut dire le rendre désirable. Ça, c'est Pascal. Mais le rendre désirable, c'est qu'est-ce que le rendre désirable? Il y a un texte étonnant de saint Augustin au livre 10 que j'ai commenté dans Au lieu de soi. Où saint Augustin fait dire à la vérité qu'elle qu'elle a répandu des parfums pour se faire désirer, qu'elle s'est fait toucher pour se faire désirer, qu'elle a satisfait tous les cinq sens, y compris qu'elle s'est déshabillée pour se faire désirer. Comment Dieu ou ce qui en tient lieu se rend-il désirable? C'est une question de fond. Et Dieu, Dieu veut-il toujours se rendre désirable? Bon, ça, ce sont des questions sérieuses. Ce qui est parfois étrange, c'est le raisonnement habituel qui consiste à dire Dieu existe parce que tout le monde le désire, ou Dieu n'existe pas puisque personne ne le désire, qui est en gros le point sur lequel les enquêtes d'opinion les plus sottes sont d'accord avec les théologiens de la pastorale les plus sophistiqués. Si le message évangélique, comme ils disent, n'est pas désiré, c'est que finalement Dieu n'existe pas. Mais si les gens se pressent à un concert spirituel, soit au sens du 18e siècle, soit au sens d'un concert rock, si les gens se précipitent à un concert spirituel, c'est que donc Dieu existe quand même plus qu'on ne croyait. Et ce raisonnement stupide est pourtant dominateur. C'est l'argument sur lequel tout le monde se retrouve. Qui présuppose, un, que Dieu a intérêt à exister, que c'est très important pour Dieu d'exister, que c'est nous qui décidons de son existence, que nous décidons de son existence à la mesure de notre désir, que notre désir est une justification, etc., etc., etc. Bon. Tout présupposé dans la nullité théologique devrait sauter aux yeux du moins des grands théologiens et des spécialistes de pastoral, et dont il faut bien reconnaître que le caractère problématique échappe parfois à beaucoup. Donc, c'est dans ce domaine, par exemple, que je pense que la question du taux de religiosité des sociétés contemporaines devrait être abordée.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser, non pas en considérant toute la société, mais en considérant seulement son système juridique, qu'il existe des phénomènes qui sont des événements et qui sont du domaine, comme ils sont précisément impossibles, qui sont du domaine de l'intouchable, c'est-à-dire de ce sur quoi précisément on ne devrait pas normalement légiférer. Alors, dans le premier chapitre, vous développez l'exemple des sans-papiers et, disons, en une ligne, page 58, vous parlez des embryons réputés par qui non encore humanisés ou surnuméraires. Est-ce qu'il serait envisageable de penser, à l'aune de cette phénoménologie de la donation, de cette pensée de l'impossible, qu'il est des événements sur lesquels on ne peut pas légiférer, c'est-à-dire, évidemment, pour lesquels il ne pourrait y avoir un droit, disons, de mise à mort, et à l'inverse, un droit à la vie, mais que ces deux notions du droit seraient toutes deux métaphysiques et qu'il faudrait précisément repenser une sorte de notion ni de droit ni de non-droit, mais par exemple de non-non-droit ou de droit impossible.
Et vous parlez d'or, me semble-t-il. Car il y a du droit quand on a édicté le droit. C'est donc la législation qui fait le droit. Mais a-t-on le droit de légiférer tout le temps? C'est la question. Alors, le droit de légiférer ne peut pas lui-même être fondé sur une législation. Ah, si, il n'est fondé que là-dessus, mais c'est pourquoi il est sans fondation, sans légitimité. Donc le droit de légiférer, l'extension du droit de légiférer est lui-même sans légitimité. Alors ce serait déjà bien de l'admettre. au lieu de... encore une fois, je ne suis pas un philosophe du droit et d'autres sont plus qualifiés que moi, mais on devrait quand même se poser la question. Le fondement du droit, il n'y a pas de fondement du droit. Parce que le fondement du droit, dans une interprétation moderne du droit comme subjectif, le fondement du droit, c'est encore une législation. Donc, il n'y a pas de fondement du droit. Alors, il faut admettre qu'il n'y a pas de fondement du droit. Et ça ne veut pas dire que le droit est insensé. Ça veut dire que le droit n'est pas fondé sur lui-même. Bon. Alors, il peut être... Alors, dire ceci, ce n'est pas nécessairement être un positiviste. Ça ne veut pas dire qu'il est fondé par le fait. Ou alors, il est à lui-même son propre fait. Mais pour dire il y a des énoncés qui sont justes et normatifs par eux-mêmes, et non pas par le fait du prince, quel que soit là le prince, il faudrait pouvoir sortir de la subjectivité et ne pas considérer que le fondement du droit, par exemple, ce soit des valeurs. Parce qu'à ce moment-là, c'est... Alors, dans ce cas-là, ce qui est en jeu, finalement, c'est de savoir s'il y a un fondement du droit et si ce fondement est lié à la subjectivité, ou à la liberté, à la conscience collective ou individuelle, etc. Ou à un substitut de cette conscience, parce qu'il y a une manière de maintenir le fondement subjectif du droit en invoquant Dieu, ou en invoquant... Alors, qu'est-ce qui peut s'imposer comme ayant valeur normative de droit sans dépendre d'un fondement? Ben, c'est sans doute ce qui se montre et se donne. Alors, où faisons-nous l'expérience de ce qui se montre et se donne de manière absolument indiscutable? Eh bien, dans ce qui ne peut pas dépendre de nous. Alors, qu'est-ce qui ne peut pas dépendre de nous? Ce que nous essayons de faire dépendre de nous le plus. Ça doit être ça qui dépend le moins de nous. Bon. Par quoi notre société est-elle hantée? Par la désévénementialisation des deux événements les plus certains, les plus universels et les moins contrôlables, qui sont la mort et la naissance. Et donc, si la question, comme on dit, de l'euthanasie, c'est-à-dire de la transformation de la mort d'événements en processus objectif décidé par nous, et la question de la fécondation artificielle ou de l'avortement, puisque c'est la même question, prise à l'envers, c'est la transformation de la naissance en une production, c'est-à-dire les deux choses consiste à transformer des événements à nouveau en objets. Alors, bien entendu, c'est une entreprise non seulement désespérante, mais désespérée, car elle ne peut, si elle réussit, et tangentiellement elle réussit, mais elle réussit à un prix terrible, c'est que la naissance devient une production, mais ça ne va pas être seulement le commencement de la vie qui va être une production. C'est l'ensemble de la vie qui, peu à peu, par l'eugénisme, va être lui-même contrôlé comme un processus technique. Et de la même chose pour la faim, parce que la faim va remonter sous les contraintes économiques, dans les deux cas, et pour le bien général. Et donc, ce qui est en jeu, c'est l'humanité de l'homme lui-même. Et si l'homme veut produire son humanité, il produira un objet qu'il appellera humain, mais c'est lui qui l'aura décidé. Donc il va se démettre de son événementialité et soumettre à l'objectivation. Donc ce dont il s'agit est tout d'une simplicité, si je puis dire, biblique, d'une simplicité absolument biblique. Et notre société est gouvernée par la peur. Et la peur de l'événement. La peur de mourir, mais ce n'est pas tellement la peur de mourir, c'est la peur de mourir parce que déjà la peur de mourir, c'est une chose étrange. Parce que rationnellement, il n'y a aucune raison d'avoir peur de mourir, plus peur de mourir que de se réjouir de mourir. Ça se joue à 50-50, puisqu'on ne sait rien. Bon. Donc, et même si. Alors, on n'en voit aucune information. Donc, la mort est neutre. Donc, de quoi avons-nous peur? Nous avons peur de passer par un événement sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Et c'est donc la peur de l'événement. Et c'est pourquoi, entre l'événement que nous avons subi involontairement, qui est la naissance, qui nous impose la facticité, et l'événement que nous allons subir et que nous ne voulons pas subir, final, enfin, supposé final, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il se passe un laps de temps dont toute l'ambition des sociétés postmodernes est de supprimer le caractère événementiel. Car nous sommes des sociétés qui ne connaissent, en un sens, plus la misère. Parce que le niveau de vie d'un misérable aujourd'hui, et même dans des pays défavorisés, est largement supérieur au niveau de vie des riches dans les pays favorisés d'il y a quelques milliers d'années. Donc la situation dans laquelle nous sommes est une situation d'insécurité, de misère, qui est surtout, qui croît, en un sens proportionnellement, à notre peur de l'événement, et donc notre besoin de sécurité. Et ce besoin maladif de sécurité n'est que l'envers de la peur de l'événement. Et cette peur de l'événement, c'est la hantise de... Le nihilisme est une immense peur de l'événement, d'une certaine façon. De l'événement, donc de l'avènement, et donc aussi de l'irréductible, de ce qui est scellé, de ce qui est accompli. Donc je pense qu'une phénoménologie de la donation, précisément parce qu'elle refuse d'être une philosophie politique, a une validité dans le domaine qu'on appelle vulgairement politique. Enfin, vous me permettrez de soutenir ce paradoxe que si on veut s'intéresser sérieusement aux choses politiques, la philosophie politique n'est pas le meilleur moyen. Et pour ceci, pour une raison extrêmement simple, c'est que la philosophie politique, même faite par les meilleurs esprits contemporains, et il y en a de nombreux, utilise des concepts qui, en gros, sont les mêmes que ceux du XVIIe siècle, et donc qui sont profondément métaphysiques et profondément non critiqués. Donc tout le monde sait ce que c'est que le pouvoir, et on en parle comme si on savait, on sait ce que c'est que le droit, on sait ce que c'est que le fondement du droit, la justice, naturellement. Il y en a même qui prétendent savoir ce que c'est que la fraternité. C'est incroyable. Bon, la justice, on ne sait pas ce que c'est. L'égalité, on ne sait pas ce que c'est. Il y a même des gens qui parlent comme s'ils étaient qualifiés de fraternité, comme si c'était un concept de philosophie politique. Donc la philosophie politique utilise des outils tellement métaphysiques que je pense qu'ils ne sont pas très opératoires sur les situations contemporaines, qui sont des situations... post-métaphysique, parce que la fin de la métaphysique, c'est pas optionnel. Il y a des gens qui l'admettent et d'autres qui l'admettent pas, mais la réalité, elle est dans la fin de la métaphysique, c'est-à-dire que les concepts de la métaphysique ne sont plus opératoires pour décrire ce que nous avons sous les yeux. Et je crois qu'une bonne partie de la philosophie politique souffre de cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs Foucault est un auteur sérieux, parce qu'il était tout à fait conscient que les catégories usuelles de la philosophie politique devaient être à tout le moins testées.
Mais, et donc du coup, pour résumer tout cela, est-ce qu'on pourrait soutenir, à partir de la phénoménologie de la donation, cette idée selon laquelle l'embryon étant du domaine de l'impossible et du domaine du sacré, par conséquent, de ce sur quoi il n'y a pas lieu de prononcer un droit, de dire un droit?
Je ne suis pas un jury, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand vous avez employé cette formule, la non-législation, je ne peux pas pas complètement pour lui, mais je veux dire, comme je vous l'avais dit en commençant, tout ceci me semble frapper au coin du bon sens. Ce qui est un grand éloge, puisque le bon sens est la chose au monde la moins partagée. La question de l'embryon, c'est un indécidable. Qui est qualifié pour savoir si l'embryon est pleinement humain ou pas pleinement humain? Personne n'est qualifié. Et dans ces cas-là, il y a un devoir d'époquer. Je m'abstiens. Et de la même manière, pour la question du moment de la mort et de la nature de la mort. La mort, c'est l'impossible. Bon, tout le monde est d'accord sur ce point. L'idée même que nous puissions avoir des critères pour définir la mort me semble une contradiction dans les termes. La mort est un événement qui advient. Comment ? Combien de temps ça prend ? Etc. C'est ça la difficulté. À partir du moment où nous voulons médicaliser la mort, nous la faisons durer. Évidemment, le moment de l'indécision est de plus en plus grand. Et l'idée folle qu'on va finir par trouver le bon critère n'a aucun sens. Il n'y a pas de critère qui vous permet de dire qu'on est arrivé au milieu de l'événement et que maintenant c'est de ce côté-là, etc. Justement, il n'y a pas de critère de l'événement. Comment vous voulez trouver un critère de la mort? Alors, vous allez substituer à l'événement de la mort un processus. Ce processus, on peut le faire durer éternellement par définition. C'est une question de moyens. Donc, ou bien vous êtes tout de suite considéré comme mort, même si vous ne l'êtes pas tout à fait, mais comme de toute façon ça se termine par une crémation, ce n'est pas un problème. Et ou bien vous avez les moyens de vous faire cryo. Vous faire refroidir. Le terme de refroidir prenant à ce moment-là un sens extrêmement complexe et intéressant. Donc vous faites refroidir, aussi longtemps que vous êtes refroidi, vous n'êtes pas refroidi. Bon, donc c'est un pur processus technique. Donc on ne parle pas. En fait, s'il y a des critères de la mort, c'est donc que justement on n'affronte pas la question de la mort. Bon, même problème pour la naissance. Et dans l'entre-deux, il y a la question de la normalité. De la normalité de l'homme. À partir de quand est-ce que l'homme sort de la normalité? Bon, tous les philosophes ont affronté ça. Donc ce sont des questions. Il n'y a pas de critère de la normalité de l'homme. Il n'y en a pas vraiment. Et il faut l'admettre. Il y a un indéterminé qui fait d'ailleurs qu'il y a des allers-retours. Et que la frontière peut être franchie dans les deux sens. L'homme se donne. Et c'est comme ça qu'il se montre. Mais l'homme ne se produit pas. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça.
Merci beaucoup.
Hop. Se refroidir, c'est bien.
Merci.
Ce qui reste un petit peu embêtant et c'est indécisable sur le plan juridique, c'est que si le droit ne prend pas en charge la régulation sociale, comme ça a toujours été le cas jusqu'à la fin du siècle dernier, qui prend en charge cette question avec la règle, d'une certaine manière. Donc vous avez parlé de l'humanité de l'homme, mais l'humanité de la femme, c'est ce qui s'est posé dans les années 70. Hein. si je puis me permettre là. donc c'est vrai qu'il est à la fois, je trouve, extrêmement pertinent cette. Question de la phénoménologie de la donation, aux questions juridiques. Mais rester sur un indécidable, qu'est-ce que ça signifie exactement du point de vue du droit ? Laisser ça à la régulation sociale, on sait ce que ça donne aussi. La chose est décidée. Que ce soit de toute façon, si le droit ne prend pas en charge, là, on est dans une décision qui n'est plus juridique, qui est sociale. Hein, c'est la question aussi qui se pose.
Moi, je ne sais pas, c'est la différence entre le droit et la coutume. Peut-être des choses qui relèvent de la coutume et d'autres qui relèvent du droit. Peut-être, enfin, je sais, ce sont des questions.
Mais je veux dire, ce n'est pas moins métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une institution qui décide. Ou alors, est-ce que cette application de la phénoménologie de la donation ne doit pas être justement être restreinte à la sphère juridique, mais doit s'appliquer à la sphère sociétale, comment dire, et politique en général.
Mais je pensais à cette histoire de concombre, etc.
Concombre allemand.
L'affolement vient du fait que, comme disait Madame Lepage, nous n'avons pas de réponse scientifique, et donc nous ne pouvons pas objectiver la situation. Alors ce qu'il faut faire, c'est appliquer le principe de précaution. C'est-à-dire ne rien faire jusqu'à ce qu'on puisse objectiver. Bon. On ne sait pas ce que ça veut dire, appliquer le principe de précaution, ça veut dire qu'on suspend le concombre. Et chose, c'est-à-dire qu'on sort de l'événement et de l'histoire, on arrête tout, jusqu'à ce qu'on puisse objectiver. Alors ça, c'est l'idée générale que la bonne politique dépend de l'objectivation. Ou cette habitude, sitôt qu'il y a un immeuble qui s'écroule, etc., il faut faire une loi. La loi étant un geste magique, parce qu'elle ne sera pas appliquée, il n'y aura pas de décret d'application, on n'a pas l'argent pour l'appliquer, etc. Mais ça fait du bien à tout le monde de se dire, on ne sait pas, mais on va décider quelque chose. Donc on aura au moins fait semblant d'avoir un pouvoir de contrôle de l'événement, sinon de suppression de l'événement. Et c'est ça qui, cette obsession, alors que il fut un temps, une époque directement métaphysique, où la politique consistait à être pris par un grand événement, l'épopée, la chose-là. Actuellement, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire une bonne politique, c'est une politique où il ne se passe rien. Et c'est très étrange. C'est la première fois où le concept enrichissez-vous, ennuyez-vous devient la définition de la très bonne politique. Et donc, qu'il ne se passe rien, c'est Guizot pour tout le monde. Et c'est très impressionnant, au point que l'absence de projet politique devient maintenant une vertu.
Vous avez dit votre dernier mot au moment où la cassette s'est arrêtée.
Ah bon ? Jamais, je suis là. C'est ça les pros. C'est ça les pros.
Merci pour votre question.
Oh non, je vous en prie.